au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
Le drame du Liban fait réagir la communauté internationale de l'ensemble de la planète et tous ceux qui peuvent aider vont le faire. Et cet élan de générosité, il n'est pas seulement gouvernemental selon les différentes institutions, mais il est également un mouvement personnel. On peut personnellement décider de dire ben, « je vais faire mon possible, je vais donner ce que je peux pour venir en aide à ces gens-là ». Mais quand vous posez ce geste-là, à qui donnez-vous, pensez-vous? Est-ce que vous pensez que l'argent dans le développement et dans l'aide internationale se rend toujours au bon endroit? Non. Il y a des gens et des gouvernements qui font commerce de cette générosité et qui abusent justement de la crédulité des gens. François Audette est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire et de l'Institut également d'études internationales de Montréal. Bonjour, M. Audette.
Oui, bonjour.
François Audet, quand je décide, moi, de donner de l'argent pour venir en aide, à une population qui est touchée, ici, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la population libanaise, mais ça peut être pour quelque cataclysme que ce soit, quelles sont mes garanties que l'argent se rend sur le terrain pour véritablement faire une différence?
Écoutez, premièrement, la garantie, elle est dans la relation de confiance que vous avez avec l'organisation que vous choisissez. Et comme n'importe quel choix de consommation, que ce soit dans un don ou dans l'achat de quelque chose, il faut toujours quand même regarder les étiquettes. Donc, si vous donnez 20$ à une organisation aveuglément, entre guillemets, si vous rentrez à l'épicerie puis il y a une boîte de plastique un peu obscure en disant donner pour telle organisation, sans que ça soit explicite ou que vous ne connaissez pas cette organisation-là, c'est sûr que les risques sont grands qu'il y a des dérives. Si par contre, vous donnez à des organisations reconnues, fiables, qui ont des états financiers exposés publiquement, qui ont des conseils d'administration solides comme dans n'importe quelle entreprise, c'est sûr que là, vous avez davantage de chances que ça fonctionne. Et là, on parle de chances et de... c'est peut-être pas un terme que j'aime, parce que je peux témoigner moi-même pour avoir travaillé dans plusieurs organisations pendant plusieurs années, que la plupart des organisations professionnelles sont dévouées pour diminuer au maximum leurs frais d'administration et maximiser toutes les sommes qui sont reçues pour être transmises en services humanitaires sur le terrain. Mais c'est certain qu'il y a toujours des frais d'administration. On veut des gens qui savent gérer, qui savent ce qu'ils font, et c'est des professionnels qui doivent évidemment être payés.
Est-ce que, parlons de ces frais d'administration, ils jouent dans quel ordre?
Dans la communauté des organisations internationales, là, des ONG, généralement, c'est entre 10 et 15 %. En haut de 15 %, il faut être vigilant. Ça peut être pour différentes raisons. Il y a des organisations qui chargent un peu plus cher, mais s'ils expliquent le pourquoi, si c'est à haute densité de main-d'œuvre, par exemple, versus des achats, c'est très différent. C'est différent si on achète, par exemple, massivement des stocks de nourriture, donc on a moins besoin de frais d'administration parce qu'on achète de la nourriture, versus si on doit payer des équipes médicales à être déployées à l'étranger avec des espèces de cliniques mobiles et tout ça. Oui. Donc c'est sûr que là les coûts sont plus élevés. Donc c'est pas un prix en particulier, mais la somme de tout ça à la fin de l'année pour des organisations ne devrait normalement pas dépasser 15%, qui est le chiffre en général qui est reconnu puis qui est respecté dans l'industrie de l'aide internationale.
OK. Bon, ça c'est pour l'aide unitaire d'un individu, d'un citoyen. Un gouvernement qui fait une conférence de presse ou un communiqué puis qui dit « nous envoyons 10 millions de dollars de soutien et d'aide à tel ou tel ou tel pays dû à telle ou telle ou telle circonstance », est-ce que cet argent-là se rend?
On va distinguer deux temps différents. Le premier, c'est l'urgence. Pour évidemment prendre le contexte libanais, actuellement, on est vraiment dans l'urgence. On est d'accord, encore pour plusieurs semaines, voire quelques mois. L'urgence, c'est l'équivalent d'une salle d'urgence dans un hôpital. C'est donc des personnes qui ont besoin d'assistance rapide et très souvent, c'est des cas de vie ou de mort pratiquement, ou c'est des sans-abri à coût de centaines de milliers qu'il faut vraiment aider. Alors, cette urgence-là, cette aide humanitaire-là, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle donc de l'aide humanitaire. Lorsque le gouvernement fait des des annonces, les sommes passent généralement à travers les ONG, à travers la Croix-Rouge, à travers aussi des agences des Nations Unies. Et là, c'est une aide très rapide et c'est pas du tout contrôlé par les pouvoirs locaux, par le gouvernement en place.
OK, donc, c'est là, pas vraiment... de gouvernement à gouvernement que ça se fait. Ça se fait via des organismes accrédités et reconnus qui ont véritablement d'excellentes réputations.
Exactement, et c'est ce qui garantit d'une certaine façon que les services vont vraiment être transmis à la population, parce que le 20 $ cumulé en plein de 20 $ qui fait $1 million de dons du public qui est souvent ajouté à plusieurs millions du gouvernement, ben ces sommes-là sont transformées en services, hein. c'est très rarement du cash qu'on donne, ça peut arriver, mais c'est souvent des services, que ce soit de la nourriture, des couvertures, des tentes, etc. Donc il faut acheter du matériel, il y a une dimension logistique, et tout ça, donc encore une fois, revient à certains coûts d'administration, mais c'est géré par des ONG, par la Croix-Rouge ou par les Nations Unies. Ce qu'il faut pas, je fais juste un petit aparté rapide, il faut la confiance qu'on a dans le pouvoir local. On a le droit évidemment d'être crédule et il faut être extrêmement vigilant. Par contre, de complètement l'écarter, là on a le phénomène inverse et je prends Haïti comme exemple. On a tellement envoyé d'aide à travers des ONG en Haïti qu'aujourd'hui on se retrouve avec un État vidé de ses fonctionnaires, vidé de ses capacités et pour lequel il n'y a plus de pouvoir. Plusieurs ONG sur place gèrent plus d'argent que la majorité des ministères. Donc voyez-vous, ça transforme le pouvoir et en termes d'éthique, en termes de représentation, etc. Évidemment, il y a un déséquilibre complet. C'est pas ça qu'on veut non plus. On veut que ça soit temporaire. Au même titre que la Croix-Rouge arrive dans les CHSLD du Québec, on veut pas que la Croix-Rouge reste ça tout le temps. Il faut éventuellement que la fonction publique, que les
faut pas déshabiller nos services locaux.
Exact. Bon. Exactement.
Maintenant, vous avez parlé d'Haïti. Je veux pas revenir sur ce que l'on sait puis qui a fait la manchette puis qui a mis des gens au banc des accusés là. Mais moi j'ai vu en allant en Haïti il y a plusieurs années des équipements qui avaient été donnés, fournis, des équipements de des bulldozers, des pelles mécaniques, etc., entièrement rouillés dans le milieu d'un champ et ça ne servait à rien. Autrement dit, j'ai l'impression que ça fait partie de la statistique de la business de l'aide internationale, mais ça ne veut pas dire que c'est efficace rendu où c'est, parce qu'il n'y avait pas personne qui savait conduire ça, puis il n'y avait pas de gasoline pour mettre là-dedans.
Effectivement, bon, là, il peut y avoir plusieurs raisons pour ce cas particulier, mais c'est certain que, et de là l'importance de travailler avec des organisations professionnelles qui quand même coordonnent avec les autorités locales, c'est-à-dire de construire un hôpital dans lequel il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de médicaments, c'est un éléphant blanc, ça, on fait pas ça. Donc, de là l'importance de travailler avec les ministères de santé locaux pour s'assurer que éventuellement il y a une transition, puis que l'administration en place puisse s'accaparer les infrastructures et les équipements. Donc, ce qu'on veut éviter, justement, c'est du parachutage un peu paternaliste, ce qui est quand même une caractéristique de l'humanitaire, ce qui est nécessaire parce qu'on veut sauver des vies rapidement, mais il faut évidemment éviter d'aller noyer complètement les autorités locales. L'expérience que vous décrivez, souvent, il est aussi expliqué parce que on n'en voit pas les bonnes choses. Et on l'a vu avec Haïti, mais c'est arrivé ailleurs avec après le tsunami notamment, il y avait des tonnes de conteneurs remplis de matériel, avec bon, évidemment des gens très généreux avaient donné leur surplus, etc. Ça allait des trucs, des bouteilles d'eau, etc. Et c'est sûr que ça, c'est pas la manière d'aider. Ça accapare beaucoup de ressources, du temps, de l'espace dans des entrepôts, etc. Et c'est pas des organisations locales ou professionnelles qui vont gérer ça. Très souvent, ça va être des initiatives personnelles. Exact. Puis les gens vont penser qu'ils ont aidé, mais ils vont justement, après ça, 6 ans plus tard, on arrive dans des territoires pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est l'accumulation de matériel qui n'avait pas été bien pensé et qui ont été distribués qui mieux. Okay. Alors, c'est pour ça l'importance de travailler avec les autorités locales et avec des organisations qui savent ce qu'ils font.
Dernière question. Est-ce que c'est une rumeur, est-ce que c'est une fiction de penser qu'il peut y avoir des gens dans les gouvernements de pays qui ont besoin d'aide, qui s'en mettent dans les poches?
Ben, comme partout ailleurs, hein, M. Mongrain, on regarde l'actualité au Québec et au Canada, c'est partout pareil. On regarde ce qui s'est passé avec We Charity il y a quelques semaines et encore des nouvelles récentes, hein, donc qui est une organisation canadienne, etc. Alors, c'est pas le scandale des commandites. Écoutez, la liste est longue chez nous, vous la connaissez mieux que moi. Donc, c'est pas l'humain, il est humain partout et la corruption et les problèmes de transparence, ils sont omniprésents dans n'importe quel type d'industrie. L'aide internationale n'est pas différente et les autorités locales non plus. Alors, c'est sûr que si c'est fait de manière rapide, si c'est fait sans instaurer des procédures de contrôle comptable, etc., bon, le standard de la bonne gouvernance, ben, c'est certain qu'il y a des risques de dérapage. Ce que M. Macron, d'ailleurs, a dit ouvertement hier en allant à Beyrouth, en disant clairement que les autorités s'en étaient mis plein les poches, donc il les pointe du doigt. Il est lui-même allé dans la foule alors que les autorités libanaises
n'ont pas
encore fait. Ah, exactement. Donc, c'est un peu humiliant tout ça, mais dans les faits, personnellement, je trouve que c'est un geste nécessaire dès le départ qui met un peu la table à des négociations qui vont être longues et qui ne seront pas juste avec la France, qui vont être avec le Canada, avec l'ensemble des bailleurs de fonds. Et clairement, il y a un vent de changement qui souffle pour revenir au Liban qui est nécessaire parce que c'est un pays qui a une culture démocratique et il faut absolument que cette négligence-là soit pas quelque chose qui revienne à nouveau. Alors, voilà.
Tout ceci étant dit, M. Audet, ce n'est pas cet entretien pour décourager la solidarité de l'aide humanitaire, mais de bien prévenir les gens qui donnent, qu'ils donnent par les bons canaux.
Exactement. Moi, j'encourage tout le monde à le faire avec les organisations reconnues. Actuellement, on sait, pour revenir sur la Croix-Rouge canadienne, la Croix-Rouge libanaise, Médecins sans frontières aussi, là, pour revenir au Liban, c'est des organisations très fiables. Il y en aura d'autres qui vont finir par se manifester aussi rapidement. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment, il faut pas avoir peur. Et l'autre élément aussi, il faut profiter de la bulle de générosité. C'est évidemment, comme vous le savez, les médias, ça change rapidement. Hein. On parle de ça. Demain, ça sera autre chose. On est déjà, il y a un match du Canadien, etc. Et rapidement, on va l'oublier, cette crise-là, et ça va devenir quelque chose dans lequel la spontanéité de la solidarité va finir par s'estomper. Alors, celles et ceux qui sont sensibles à ce qui se passe actuellement, je crois qu'il faut profiter de cette
expression
de la solidarité, du momentum, absolument.
On va prendre un langage de sport. Le momentum est là.
Et là.
Merci beaucoup, François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, et également de l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci, François Audet.